Donc, selon la World Health Organization, l'obésité, c'est, comme vous le savez, c'est un excès de tissu gras dans le corps qui arrive et quand ça devient grave sur la santé des patients, l'obésité devient une maladie. C'est pour ça, actuellement, c'est une épidémie globale dans le monde et ça a été reconnu comme une vraie maladie. Comment classifier les obèses? Ça a été déjà dit, on tient surtout compte actuellement, jusqu'à maintenant, sur le Body Mass Index, dont le calcul se fait le poids en kilos sur la taille au carré en mètres. Et comme ça a été déjà dit, c'est classé chez les patients qui sont sous le poids idéal, les poids normaux qui sont moins de 25 à 24,9, et puis la classe 1, classe 2, classe 3. Notre majorité de travail se fait surtout, nous, entre les classes 2 et les classes 3. En fait, la chirurgie de l'obésité s'est développée énormément dans le monde depuis ces dernières vingtaines d'années. Et jusqu'à maintenant, c'est le traitement le plus efficace pour faire maigrir ces patients. Et c'est pour ça qu'elle a gagné beaucoup de popularité sur tout le globe terrestre. Quelles sont les indications de chirurgie de l'obésité? Le premier consensus a été fait en 1991 par le Gastrointestinal Surgery for Severe Obesity par la National Institute of Health. Et c'est là qu'ils ont mis les indications principales de l'obésité. Nous sommes tous d'accord qu'il faut opérer les patients qui ont des poids corporels au-dessus de 40 et les patients qui ont un index entre 35 et 40, mais qui ont des facteurs de comorbidité comme le diabète, l'hypertension, les apnées de sommeil, les hyperlipidémies, les problèmes ostéo-articulaires et psychologiques. Deuxième consensus en 2004, qui a été développé par l'American Society for Bariatric Surgery. Et là, ils ont fait baisser le poids, l'indication de la chirurgie pour les BMI entre 30 et 34,9 sur une condition principale, que ces patients qui sont entre 30 et 35 aient des morbidités très graves et dont la chirurgie peut améliorer leur état de santé, par exemple surtout le diabète. Troisième consensus. En 2008, là, ils ont élargi les indications de la chirurgie de l'obésité sur les BMI qui sont plus que 60, parce qu'au début, on avait peur d'opérer ces patients qui ont des facteurs de risque très majeurs. Et les patients qui ont plus que 60 ans, parce qu'au début, on était limité sur l'âge, du fait qu'avec les années, la chirurgie de l'obésité est devenue assez classique pour les chirurgiens qui font cette chirurgie. Donc, on a osé de développer plus vers des patients plus âgés et même chez des adolescents à moins de 18 ans. Juste ce cas, une jeune fille de 13 ans qui avait un BMI de 53, qui avait 128 kilos. Donc actuellement, nous opérons des patients qui ont moins de 15 ans, à condition qu'il y ait des BMI assez élevés. Quelles sont les principales? Juste un petit aperçu pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Principale technique, dont la plus ancienne, qui a été décrite dans les années 90, c'est le gastric band, l'anneau gastrique. On le fait beaucoup de moins en moins actuellement parce qu'avec les années, ça s'est révélé avec un grand échec. Ces patients qui pouvaient plus manger à cause de cet anneau qui coinçait leur estomac, ils se sont transformés en sweet eaters, ça veut dire ils mangeaient des sucreries. La technique qu'on fait le plus actuellement, c'est la sleeve gastrectomie qui consiste à couper l'estomac d'une façon verticale et retirer complètement le fundus, une partie de l'antre gastrique. Ce qu'on retire à la fin, c'est ça, c'est au moins le trois quarts de l'estomac est retiré et le patient continue à s'alimenter par ce tube gastrique sans modifier la physiopathologie de la digestion. D'autres techniques, le gastric bypass, technique très réputée dans le monde, qui consiste à couper l'estomac par une petite poche de 30 millilitres en amont et faire monter une anse gastrique en roue en Y qui fait 1,5 mètre et demi et qui sera anastomosée à l'estomac. Donc, on va bypasser la partie de l'antre gastrique et le duodénum. Le problème de ces techniques, le roue en Y bypass ou le mini gastric bypass qui revient un peu à la même physiopathologie, c'est que ces patients, ils vont maigrir, pas seulement parce qu'on fait une restriction de la cavité gastrique, mais par un mécanisme qui est la malabsorption intestinale. Donc les problèmes qu'on voit chez ces patients à long terme, c'est surtout des problèmes d'anémie, d'hypovitaminose, d'hypocalcémie, d'ostéoporose. Il faut qu'ils soient suivis d'une façon stricte. Technique qui est de plus en plus décrite, qu'on utilise surtout dans les échecs des autres techniques, qui est le dunal switch. Bon, c'est une technique aussi malabsorptive, qui a plus de morbidité que le gastric bypass. On commence à la faire timidement, parce que vraiment la morbidité post-opératoire à long terme, elle est encore plus grave que le gastric bypass. Donc il faut qu'elle soit faite chez des patients sélectionnés. Quel est l'effet de l'obésité sur la respiration et la fonction pulmonaire? Comme vous savez, comme il a été dit, l'obésité affecte la fonction pulmonaire et aussi la fonction cardio-respiratoire. L'obésité est associée dans 50% à une augmentation de l'incidence de l'asthme, de l'apnée du sommeil et des dyspnées, surtout les dyspnées d'effort. Les comorbidités pulmonaires peuvent parfois être sous-estimées dans la phase préopératoire. Donc on peut voir des patients obèses qui ne sont pas tabagiques et qu'on pense qu'ils respirent bien, mais en fait, c'est des patients qui ont des problèmes respiratoires sévères. C'est pour ça qu'il est conseillé vivement que ces patients aient une exploration respiratoire poussée, surtout pour l'apnée du sommeil et pour étudier la fonction respiratoire en préopératoire. Donc, l'approche multidisciplinaire est importante et obligatoire chez ces patients. Et pour cela, on a besoin de spécialistes, surtout des cardiologues et des pneumologues qui sont un peu expérimentés dans les obèses. Chez nous, à l'hôpital, la consultation pneumo est obligatoire chez tous les obèses, surtout qui ont des BMI au-dessus de 40. Si on nous donne le choix de demander une seule consultation préopératoire d'un spécialiste, nous demandons le pneumologue. Quelle chirurgie faut-il choisir à ces patients obèses? Donc vous savez qu'en chirurgie, on fait la chirurgie ouverte par laparotomie, ça veut dire on ouvre l'abdomen, et puis la chirurgie par voie laparoscopique qui a pris un grand essor ces 20 ou 30 dernières années et qui est pratiquée de plus en plus. Il faut savoir aussi, avant d'aborder quelle technique, que les obèses, lors de la chirurgie, on a un problème dans l'utilisation des curares ou des drogues qui ont un effet de relaxant musculaire. Ça, ils jouent un grand rôle dans les suites opératoires pour l'insuffisance respiratoire. La durée longue de la chirurgie peut aussi avoir un effet mauvais en post-opératoire. Donc nous conseillons que cette chirurgie ne dépasse pas les 3 à 4 heures. Et toute complication qui survient durant la chirurgie peut aussi être un facteur négatif sur le suivi post-opératoire du malade et surtout sur la fonction pulmonaire. On peut avoir des pneumothorax lors de la chirurgie, on peut avoir des perforations intestinales, des perforations gastriques qui peuvent se compliquer de fistules post-opératoires et toutes ces complications, elles vont toujours retentir sur la fonction respiratoire. Donc, nous pensons que la chirurgie laparoscopique qui va minimiser l'agression sur le corps humain doit être une meilleure technique pour aborder ces patients. Mais ce n'est pas encore prouvé à 100%. Il faut savoir aussi qu'il y a un inconvénient dans la chirurgie laparoscopique, c'est lorsqu'on opère ces patients, par exemple ces cas, nous insufflons l'abdomen par du gaz carbonique à une pression de 13 mm de mercure et parfois à 14 mm de mercure. Cette hyperpression intra-abdominale, elle peut jouer un rôle pas très bien sur les muscles diaphragmatiques. Et si cette chirurgie dure plus que 4 heures, on risque d'avoir des problèmes au réveil du patient et dans l'extubation du patient et dans la respiration post-opératoire. Comment ça se passe? Comme je vous ai dit, on perfore l'abdomen avec une aiguille, on insuffle du gaz, on fait rentrer des trocars, des instruments qui nous aident à faire pénétrer des pinces, des ciseaux et des instruments de coagulation. La chirurgie est faite par assistance vidéo sur un écran, comme vous le voyez sur cette image. Plusieurs études ont été faites, par exemple celle-là sur plus que 19 000 patients qui ont eu une chirurgie de gastric bypass par voie ouverte ou par laparoscopie. En fait, ils ont confirmé que le risque de complications respiratoires post-opératoires il est beaucoup plus élevé chez les patients qui ont eu des laparotomies, ça veut dire des incisions et pas de laparoscopie. Une autre étude par Lancaster, ils ont confirmé qu'entre la chirurgie ouverte et la chirurgie laparoscopique, les patients qui ont eu une dépendance plus que 48 heures sur les respirateurs ou qui ont eu des problèmes de réveil en post-opératoire ou d'extubation, c'est les patients qui ont été opérés par voie ouverte. Encore cette étude par Nguyen qui confirme un peu les mêmes problèmes et qui parle aussi que le facteur douleur de ces patients, puisqu'on n'incise pas à l'abdomen, ça se fait par 3 ou 4 trous, ils ont moins mal en post-opératoire, donc ils peuvent mieux respirer. Donc ça évite d'avoir des complications respiratoires, surtout comme des atélectasies. Cette étude, juste pour vous dire, qu'elle montre que la gastric band par rapport au gastric bypass, l'anneau gastrique par rapport au gastric bypass, il y a moins de complications respiratoires. Pourquoi ? Pourtant, elles sont faites toutes les deux par laparoscopie, parce que la technique de gastric band, elle prend moins de temps. Donc le facteur temps joue sur les problèmes respiratoires. Quelles sont les complications pulmonaires qu'on peut voir après cette chirurgie ? La principale complication après les complications pariétales, c'est les complications respiratoires. Si jamais ça survient, ces problèmes, nous avons une plus grande morbidité, un plus haut taux de mortalité, un coût qui peut arriver à plus que 10 fois du coût habituel et un séjour hospitalier qui peut traîner des semaines. 6,4% des complications, nous avons 6,4% de complications post-opératoires dans la chirurgie de l'obésité. Les principales, parmi ces 6,4%, 18% sont liées à des problèmes respiratoires, qui sont l'insuffisance respiratoire post-opératoire ou les pneumonies post-opératoires. Les complications rénales sont à 7% et les complications cardiaques, elles sont beaucoup moindres, de 2%. Donc le facteur complications respiratoires reste un problème majeur. Deux mots sur les pneumopathies et les insuffisances respiratoires post-opératoires. L'insuffisance respiratoire post-opératoire, c'est quand les malades, ils ont du mal à être extubés et de s'en sortir du respirateur dans les 48 heures qui suivent l'opération, ou lorsqu'on est obligé de réintuber ce malade en post-opératoire ou lors du réveil. Donc il se réveille mal. La mortalité post-opératoire, elle peut arriver entre 4 et 13%. Par contre, normalement, elle ne dépasse pas 0,1%. Toute chirurgie confondue. Dans cette étude de 11 000 patients, l'incidence des pneumopathies était entre 0 et 2,2%. L'incidence totale dans les pneumopathies post-opératoires, vous voyez qu'elle n'est pas énorme, elle est à 0,6%, mais une fois qu'elle survient, c'est pas évident. Les facteurs de risque de l'insuffisance respiratoire post-opératoire en chirurgie bariatrique, dans cette étude de plus que 300 000 patients qui ont eu une chirurgie d'obésité, l'incidence de l'insuffisance respiratoire aiguë post-opératoire était de 1,35%. Le grand facteur de l'insuffisance respiratoire de 4% était vu chez les patients opérés de chirurgie à ciel ouvert, open chirurgie. Chez les patients qui avaient des insuffisances cardiaques, c'est des patients qui avaient une insuffisance rénale chronique, qui avaient une vasculopathie périphérique, chez les mâles de plus de 50 ans, alcooliques, tabagiques, qui ont des problèmes pulmonaires chroniques, et chez les diabétiques. Et vous voyez que la mortalité, elle peut monter jusqu'à plus que 5% par rapport à 0,0 d'habitude. Les facteurs de risque de pneumopathie post-opératoire, c'est surtout les patients qui ont d'insuffisance cardiaque, les patients qui sont tabagiques, les patients qui ont des bronchopathies chroniques, qui ont plus que 54 ans, des patients qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux en préopératoire, et les diabétiques. Nous tenons beaucoup à faire arrêter ces patients le plus possible le tabac avant la chirurgie et ils doivent être suivis de très proche pour être sûr qu'ils ont arrêté ou ils ont diminué le facteur tabagique. La majorité des obèses fument, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous recommandons que ces patients soient suivis en préopératoire par des spécialistes et qu'on soit sûr que les problèmes cardiaques et respiratoires soient réglés avant la chirurgie. Un autre grand problème, c'est l'embolie pulmonaire. Heureusement, elle survient dans très peu de cas, dans 0,9%. Par contre, les phlébites, dans 0,3 à 1,3%. Par contre, une fois que ça arrive, l'embolie pulmonaire chez les obèses, le taux de mortalité peut monter jusqu'à 33%. Un grand problème qui n'est pas encore résolu, comment gérer le problème d'anticoagulation chez ces malades? Sur une étude prospective comparant 132 patients sur 176 patients opérés d'obésité, la durée hospitalière, la survenue de phlébite chez des patients qui ont eu plus que 10 jours de prophylaxie était plus importante chez les patients qui ont eu de... dans une étude prospective chez 132 patients comparant 176 patients opérés d'obésité qui ont reçu à l'hôpital seulement une prophylaxie de phlébite par rapport à ceux qui ont reçu une prophylaxie 10 jours après l'opération. Donc, nous avons trouvé que les patients qui ont reçu une prophylaxie en post-opératoire prolongée avaient moins de phlébite. C'est pour ça qu'il a été conseillé, mais pas confirmé et prouvé, qu'il faut au minimum donner 10 jours d'anticoagulation en post-opératoire. Sur cette étude de plus que 71 000 patients opérés d'obésité, ils ont trouvé un taux de 184 patients qui ont eu des phlébites, soit 0,3%, et des embolies pulmonaires de 0,2%. En fait, les patients qui ont eu d'embolies pulmonaires, les 134, 96 étaient diagnostiqués après leur sortie de l'hôpital, en moyenne 11 jours après la sortie. Donc c'est pour ça qu'on préfère que ces malades soient anticoagulés pendant plus que 10 jours. La différence de survenue pendant le temps post-opératoire ne dépend pas de la technique, si c'est un gastric bypass ou une sleeve gastrectomie. D'autres complications peuvent survenir après cette chirurgie d'obésité. Par exemple, c'est cette complication qui est les fistules gastro-bronchiques. Ça a été décrit, heureusement c'est rare, mais ça survient surtout lorsqu'il y a des fistules post-opératoires par lâchage d'agrafage ou de suture. Les patients forment des abcès souphréniques. L'abcès se fistulise à travers le diaphragme, dans le poumon et dans les bronches. Et comme vous voyez sur ces radios, nous voyons bien par opacification de l'estomac l'opacification des bronches. La prise en charge de ce malade, elle est lourde. Il nécessite parfois une intervention thoracique et une intervention abdominale. D'autres complications, les épanchements pleuraux. Ça, c'est une de nos patients. L'épanchement pleural, surtout, survient à gauche. C'est souvent un indice d'une complication intra-abdominale post-opératoire. Cette patiente, lors de l'extraction de l'estomac suite à une sleeve gastrectomie, l'estomac s'était rompu dans l'abdomen et comme par hasard était rempli d'alimentation. Cette patiente avait mangé probablement la veille de l'opération. Donc il y a eu une fuite d'aliments dans la cavité abdominale. Elle a fait une péritonite chimique qui s'est transformée en une péritonite infectieuse. Et puis elle a fait un grand épanchement pleural post-opératoire qui a prolongé le séjour de 3 semaines, qui a nécessité des ponctions pleurales et même une hospitalisation aux soins intensifs de plus que 5 jours. 2 mots sur le métabolique syndrome. Vous savez que le syndrome métabolique, c'est lorsqu'il y a la présence au moins de 2 critères, l'hyperlipidémie ou l'hypertension ou le diabète. Donc, ça a été prouvé que ces patients qui ont un syndrome métabolique, ils ont plus de risques de faire des atélectasies, des pneumonies, des pneumothorax, des épanchements pleuraux et d'insuffisance respiratoire sévère en post-opératoire. Donc, il faut se méfier un peu de ces patients. Quel est l'effet de la chirurgie bariatrique sur les problèmes respiratoires? Des études ont été faites avec un suivi de 5 ans chez des malades opérés d'obésité. En fait, l'asthme est amélioré de 40 à 100%. L'apnée du sommeil est améliorée de 80%. Nous avons une diminution de 70% de l'index apnée sur hypopnée. Il y a une amélioration du volume forcé expiratoire d'une seconde et de la capacité vitale forcée. La fonction pulmonaire s'est nettement améliorée sur les spirométries faites en post-opératoire à long terme. En gros, que faut-il faire pour prévenir toutes ces complications pulmonaires en post-opératoire? Il faut une équipe spécialisée. Des pneumologues, je l'ai déjà dit, des cardiologues, des anesthésistes qui ont déjà opéré plusieurs patients d'obésité. Il faut des chirurgiens qui soient un peu expérimentés. Pourquoi? Pour que l'opération ne traîne pas, pour que, en cas où il y a un pépin péropératoire, qu'il puisse être géré rapidement, sinon on peut arriver à des catastrophes. Nous préférons que la chirurgie soit faite par voie laparoscopique. Il faut que la chirurgie dure moins de 4 heures. Il faut faire le maximum qu'il n'y ait pas de complications techniques péropératoires. Il faut une prévention des phlébites et des complications veineuses périphériques. Au moins, il faut les mettre sous l'Ovenox au moins 10 jours en post-opératoire. Il faut qu'ils fassent une spirométrie intensive en post-opératoire, soulever leur tête au-dessus du niveau de lit, surtout les 2 premières semaines. Il faut qu'ils bougent même la veille de l'opération, le plus vite possible. En conclusion, la chirurgie bariatrique, elle a montré ses preuves. C'est actuellement le seul traitement efficace de ces patients hyperobèses. L'obésité, comme ça a été dit plusieurs fois, affecte la fonction respiratoire et la fonction cardiaque. Les complications respiratoires, ce sont les complications dont on se méfie le plus en post-opératoire. Heureusement, l'incidence n'est pas très élevée. Nous préférons opérer par voie laparoscopique le plus possible, même pour les reprises des complications post-chirurgicales. L'aggravation de la morbidité et de la mortalité en cas de pneumonie post-opératoire et d'insuffisance respiratoire survenant en post-op. La chirurgie bariatrique a prouvé qu'à long terme, il y a une amélioration nette de toutes les complications liées à l'obésité, surtout sur le plan respiratoire. Et je réinsiste sur une équipe spécialisée, multidisciplinaire, pour gérer ces patients qui sont parfois très compliqués. Voilà, merci.